Je ne sais pas si c'était hier, aujourd'hui, plus là, ce que je regrette, mais si j'ai bien compris un point commun aux interventions ce matin, c'est qu'un des objectifs affichés du colloque, est la volonté de Guillaume Tussaud de faire souffrir, voire de torturer les orateurs. Je n'ai pas échappé à ce problème parce que jusqu'à il y a très peu de temps, vraiment très peu de temps, je me demandais quelle légitimité j'avais à intervenir sur ce sujet, quelles étaient les choses que je pouvais dire sur ce sujet, je ne savais pas vraiment par quel bout prendre ce sujet, donc j'ai pas mal cherché. J'ai trouvé la solution en fait dans le programme. Ce que nous avait pas dit Guillaume, en tout cas ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'on pouvait appeler ça impression de lecture. Donc je vais essayer de redéfinir le sujet qu'il pensait me donner à partir de cette expression, impression que je garde au pluriel comme lui, et de lecture que je mettrai peut-être au pluriel pour des raisons que je vais rapidement indiquer. C'est pas simplement un exercice de style d'appeler ça impression de lecture pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'œuvre de Bentham est monstrueusement démesurée et que si l'on veut faire un travail de chercheur sérieux, ce que j'aurais souhaité faire mais que je n'ai pas pu faire, il faudrait se plonger dans tout ce que Bentham a écrit, l'analyser pour essayer de faire sortir quelque chose qui me permettrait de parler à son droit. Or, je suis à peu près dans la même position que la plupart de mes collègues ici, c'est-à-dire que j'ai des objectifs de publication et de visibilité de la recherche qui sont affichés par le ministre et qui ne me permettent pas d'avoir le temps de faire de la recherche. Donc, je n'ai pas pu rentrer dans cette. La deuxième chose, c'est que même si on faisait ce travail-là, en tous les cas, si on imagine que ce soit faisable, on ne trouverait sans doute pas chez Bentham un exposé qui soit un exposé rigoureux, construit de ce que serait une science de droit. Il y a beaucoup de choses qui finalement sont impressionnistes aussi chez Bentham, dans le sens où ça apparaît explicitement par quelques affirmations et ça apparaît surtout implicitement par une méthode qui est retenue. Donc finalement, le fait de s'appuyer sur les impressions n'est pas une mauvaise chose. Puis le troisième élément, c'est que l'avantage de parler d'impression de lecture me permet de me retrouver sur mon terrain et de dire finalement que ce qui justifierait peut-être ma présence ici et le fait que je dise quelques mots sur la science du droit par rapport à Bentham, ce n'est pas tellement ce que Bentham a écrit, mais plutôt ce que quelqu'un qui essaie de réfléchir sur la science du droit à l'heure actuelle peut trouver chez Bentham. Et c'est de là que je voudrais repartir. Lecture ensuite au pluriel, parce qu'il y a d'abord mes lectures, et mes lectures qui sont étalées dans le temps. J'ai lu Bentham il y a pas mal de temps, j'ai relu certains textes pour ce colloque, mais j'ai à la fois des souvenirs lointains et puis des choses que j'ai vérifiées ou qui se sont contredites à la relecture. Et puis lecture aussi parce que finalement, on connaît peut-être mieux le rapport de Bentham à la science du droit, non pas par la lecture directe que l'on a de Bentham ou par les propos que Bentham tient, que par les reconstructions que ceux qui réfléchissent sur la science du droit font de Bentham. Ce qui paraît assez évident, et ça pourrait être le point de départ de l'exposé, c'est de constater que dans tout un courant de la théorie du droit qui prétend réfléchir sur la science du droit, Bentham est revendiqué et présenté comme un précurseur de cette science. Je donne simplement quelques exemples. Évidemment, la première raison qui vient à l'esprit, c'est Hart. Hart a été un lecteur acharné et assidu de Bentham. Il l'a commenté, il l'a présenté, il l'a édité. Et il y a une référence très claire dans cette reconstruction de la philosophie analytique du droit anglaise qui passe par Bentham, Austin, Hart. C'est également vrai dans le courant analytique continental. Ross, de manière assez implicite d'ailleurs, hein, par des notes de bas de page ou par quelques références, signale qu'il est dans la continuité de Bentham assez fréquemment. Olivier Cronin le fait d'une manière qui est peut-être pas tout à fait rigoureuse, mais bon, ça c'est assez propre à Olivier Cronin qui a des relectures assez personnelles. Mais on retrouve ça également dans l'analyse critique du langage, dans les écoles italiennes notamment. Alors se demander quel est le rapport entre Bentham et la science du droit dans cette perspective pourrait être fait au moins de deux manières. Il y en a encore d'autres, mais au moins de deux manières. La première, c'est d'essayer de vérifier à la lecture de Bentham si Bentham fait de la science du droit, c'est-à-dire analyser les textes de Bentham comme étant une présentation scientifique de ce qu'est appliquer le droit qui est en train d'étudier. On pourrait par exemple se baser sur son analyse, évidemment, de la déclaration du droit de l'homme, etc. Et bien faire un exposé comme a pu le faire Pierre Delvaux en regardant qu'est-ce que le contrat panoptique et en quoi ça correspond à des choses qui, conceptuellement ou factuellement, seraient qualifiables de droit. Ce n'est pas la voie que j'ai choisie, et ce n'est pas la voie que j'ai choisie peut-être par facilité, parce qu'il faudrait beaucoup de temps et beaucoup de compétences pour retenir cela. Et il y a donc une deuxième manière qui est d'étudier non pas si Bentham fait de la science, mais quelle est sa conception de la science du droit. Pour autant qu'il exprime une conception de la science du droit, autrement dit, est-ce que chez Bentham, on peut trouver une théorie explicite ou implicite d'un projet scientifique pour le droit? Et c'est à ça, en fait, c'est à cette deuxième manière que renvoie très souvent la position de Hart, de Ross et des analytiques. C'est de dire, finalement, Bentham nous a doté des outils conceptuels pour pouvoir dégager une science du droit. Alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir, quand on est placé sur ces positions, sur ces postures, à la lecture de Bentham, ce qui résonne comme effectivement un précurseur de la science du droit. Alors, peut-être deux observations qui sont les premières impressions qu'on a à la lecture. Précurseur, Bentham est certainement au sens, non pas où il aurait eu des intuitions, ou au sens où il annoncerait quelque chose qu'il n'aurait pas commencé à réaliser. On s'aperçoit qu'en réalité, quand on se réfère à Bentham en disant « fait la science du droit », il y a sans doute une conceptualisation, mais il y a aussi et surtout le fait d'avoir compris et indiqué des enjeux. Donc, à quoi ça sert d'avoir une science du droit sur le modèle qu'il préconiserait, et d'avoir indiqué des méthodes. Donc, ce n'est pas simplement des idées qui résonnent et qu'il faudrait reconstruire, c'est véritablement déjà, chez Bentham, première impression, un début de réflexion, enfin un début, c'est méchant pour Bentham, plus qu'un début, une réflexion assez approfondie sur les raisons politiques et épistémologiques qui amèneraient à avoir une science du droit et sur les méthodes adaptées à cela. Et puis la deuxième chose qui résonne, c'est qu'évidemment, il faut s'entendre, au moins à titre spéculatif au départ, sur ce que est la science du droit, ce qu'on cherche, ça, chez Bentham. La science du droit que l'on cherche est une science du droit au sens moderne du terme. On a souligné à plusieurs reprises la modernité ou l'actualité de Bentham. C'est évidemment ce qui est intéressant, c'est de voir que Bentham se place ou anticipe ce qui sera la réflexion sur la science du droit à l'heure actuelle, et non pas ne se situe pas sur le terrain de ce qui était présenté comme une science du droit à l'époque, et au contraire, il se méfie énormément de ce qui était une science du droit à l'époque. Pour faire court, ce qui l'intéresse, ce qui m'intéresse quand je lis l'intérêt qu'il peut avoir pour la science du droit, c'est l'idée d'avoir une science qui repose sur des faits, donc une forme d'empirisme. C'est l'idée d'avoir une science et une méthode qui suppose la compréhension du droit comme langage et la critique linguistique de ce langage, donc une approche plutôt positivisto-analytique, et non pas ce qui était le projet jusqu'au moins au XIXe siècle de la science du droit, l'art de la bonne législation, la science qui nous permet de savoir ce que sont les bonnes lois dans l'absolu. Malgré tout, ce tableau de précurseur de la science du droit présenté chez Bentham, peut-être, c'est aussi une des impressions qu'on a, est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Même si on trouve toutes ces idées chez Bentham, il demeure que Bentham n'arrive pas, c'est parce qu'on lui demande, à s'extirper totalement de certaines des représentations de son époque, que certaines des distinctions qu'il propose, et des distinctions, en viennent finalement à rendre les choses peut-être plus confuses qu'à ne les éclaircir. Et puis surtout, mais ça c'est une des grandes questions toujours autour de Bentham, il n'est pas certain qu'il parvienne ou qu'il cherche véritablement à assumer en même temps une position qui serait une position métathéorique qui conduirait à une science du droit de type positivisto-analytique et la position philosophique de l'utilitarisme. Il y a un lien entre les deux, je reviendrai sur ce lien. Il y a une cohérence entre les deux, et je crois qu'il faut souligner la cohérence. Ça ne veut pas dire qu'il y a une cohérence parfaite, et il peut apparaître des contradictions qui donc obscurciraient ce tableau selon lequel Bentham serait le précurseur, ou l'un des grands précurseurs de la science du droit, même si, indéniablement, il est aussi cela. Ce qui me nous paraît donc important, c'est de comprendre ou de rechercher ce qui constituerait la théorie. Alors, encore une fois, je ne dis pas que lui, l'expérience, mais ce qui reconstruit, constituerait la théorie d'action du droit chez Bentham et ce qui constituerait la méthode d'analyse scientifique du droit ou la méthode scientifique d'analyse du droit chez Bentham. Alors, premier point, les éléments pour une théorie de la science du droit. Il faut bien sûr accepter un certain nombre d'éléments préalables avant d'essayer de reconstruire ou de dégager ces éléments. Accepter d'abord l'idée que la science dont on parle ici, la science du droit, qui est aussi la science dont Bentham pouvait parler, est une science au sens de science de la nature, au sens d'une science qui vise à décrire ce qui est, décrire le monde, et non pas remplir notre projet, dire ce que devrait être le droit, etc. Il faut également accepter l'idée que cette construction d'une théorie de la science est un volet indispensable à un projet de type positiviste. Une fois que l'on accepte ces deux idées-là, donc on ne cherche pas une autre science du droit chez Kelsen, le contre-sens auquel nous renvoient les impressions de lecture du normativisme viennois de Guillaume. Lorsqu'on ne cherche pas une autre science auquel renverraient les analyses de Bentham, on constate que Bentham assume explicitement, à des degrés cependant divers, trois points qui me semblent nécessaires pour pouvoir constituer ce projet positiviste d'une science du droit. Le non-cognitivisme éthique, ça c'est une chose qui est essentielle à la construction d'un projet positiviste, la construction d'un objet, donc l'idée que la science va construire son objet, et une certaine forme de relation entre la démarche cognitive et un projet politique. Donc quelques mots sur chacun de ces trois points. D'abord, la posture non-cognitiviste, qui est très claire et très revendiquée chez Bentham, même si à mon sens, elle connaît aussi quelques limites. Évidemment, l'élément le plus évident, c'est l'anti-juste naturalisme de principe de Bentham, le refus clair, affirmé de manière parfois très outrancière, mais c'est jamais mauvais d'être outrancier sur cette question, pour critiquer la position du juste naturalisme, l'idée qu'il n'existe pas de valeur a priori, donc le refus de toute conception intuitionniste, c'est évidemment une démarche qui est clairement une démarche de non-cognitivisme éthique. La description du droit de ce point de vue chez Bentham repose sur un projet de compréhension, une formalisation de compréhension de la nature humaine qui résume très classiquement de la relation entre les peines et les plaisirs, ce qui aussi fait écho à certaines formes d'émotivisme, et qui va avoir pour étalon la détermination de l'utilité. Malgré tout, et ça, cela a déjà été rappelé notamment par Françoise Dreyfus, il y a chez Bentham le projet de constitution d'une morale. Donc, l'idée que la morale n'était pas a priori, qu'elle n'est pas du droit naturel, mais que par une certaine forme d'activité de type intellectuel, une certaine forme de rationalité, même si ce sont des calculs sur les intérêts, sur l'utilité, etc., il va être possible de déterminer quelque chose de bon. Et pas simplement par la décision. Bentham va être décisionniste dans certains points, mais dans ce non-cognitivisme, dans cet utilitarisme, il y a en substance la possibilité d'une lecture qui va être une lecture reconstructionniste de ce qui pourrait être bon. Il y a également l'idée qui est pointée dans la discussion que Ross a sur l'émotivisme et sur les valeurs, l'idée que chez Bentham, même s'il n'y a pas une forme d'intuitionnisme, il y a bien l'idée que le plaisir est quelque chose de bon en soi, et donc que existerait malgré tout, pourrait exister malgré tout, un certain nombre de valeurs comme existantes, ou en tous les cas comme constatables. Alors, chez Bentham, c'est extrêmement confus, les portes sont ouvertes, on peut avoir plusieurs lectures. Ce qui me semble intéressant quand on revient sur ces positions, c'est de voir que finalement, Bentham pourrait être revendiqué par ce non-cognitivisme, somme toute malgré tout un petit peu limité, il pourrait être revendiqué à la fois par des non-cognitivistes radicaux, parce que voilà, pas d'a priori, pas d'intuitionnisme, mais en même temps il pourrait être revendiqué tout le mouvement analytique de la science du droit qui essaie de reconstruire la rationalité. Curieusement, c'est peut-être la version la plus contemporaine de la science du droit analytique, je pense notamment aux écoles espagnoles, qui peuvent se rapprocher de Bentham, parce qu'il y a cette même idée que l'on peut travailler sans a priorisme, mais avec quand même la possibilité de retrouver quelque chose comme des valeurs en soi, valeurs qui ne sont pas données a priori, mais que l'on peut reconstruire rationnellement. Alors évidemment, ensuite, du point de vue politique, ça sera utilisé également dans ce sens-là, et je ne reviens pas sur ce qui deviendra, quel était le devenir de l'utilitarisme politique. Deuxième point essentiel à la constitution d'une science du droit, donc une théorie du science du droit qui est vraiment présente chez Bentham, c'est la construction du concept de droit. Je prends volontairement, évidemment, le titre de l'art pour montrer qu'il y a quelque part, malgré tout, une filiation. Conséquence de son non-cognitivisme, Bentham ne dispose pas d'un droit a priori. Il faut qu'il fournisse l'objet qu'il construit et qui sera disponible pour une science du droit éventuelle, et cela correspond à deux éléments qui permettront ensuite un travail de description de cet objet. Première idée, très clairement affirmée, le droit est une expression de volonté, le résultat d'une expression de volonté, donc il se place très clairement sur le terrain qui n'assimile pas le droit à des valeurs, mais à j'allais dire la signification d'un acte de volonté, en tous les cas, au résultat d'un acte de volonté, et en ce sens, il est très clairement dans cette école analytique anglaise d'Austin, mais on pourrait remonter beaucoup plus loin, il y a chez Bentham, qui n'est plus personne qui a déjà dit que c'était l'autorité et non pas la vérité qui faisait le droit repris par d'autres philosophes anglais, un petit peu plus tôt que Bentham. Intéressant aussi de ce point de vue-là, dans l'analyse du commandement, dans cette expression de volonté, Bentham va travailler et en tout cas fournir l'idée qu'il peut y avoir des expressions des commandements explicites et des quasi-commandements qui revêtent une forme d'implicité, les deux se trouvant par ailleurs dans le commandement du législateur, dans la loi, ce qui en substance permet de raisonner avec les différentes fonctions des énoncés juridiques tels qu'ils peuvent être présentés par certaines formes de sciences du droit, notamment dans la distinction entre l'énoncé normatif, qui sera le support d'une norme qui est éventuellement adressée à des autorités qui ont le pouvoir de trancher des différends, et une fonction pratico-morale, une fonction de directive qui pourrait s'adresser à l'ensemble de la société selon la réception qui peut en être faite. Deuxième élément essentiel dans la construction de l'objet droit pour disponibilisation du droit de Bentham, l'idée et l'insistance sur la dimension linguistique, sur le travail linguistique, le vecteur du commandement, c'est le discours, c'est la parole, et c'est dans l'analyse des mots et des concepts que passera le projet critique d'une science éventuelle du droit. Troisième partie d'un projet, de la construction d'un projet de la science du droit chez Bentham, encore une fois en impression de lecture, le lien qui se fait nécessairement entre une épistémologie et un projet politique, et le lien qui peut exister entre le projet philosophico-politique de l'utilitarisme d'un côté et ce que serait l'épistémologie d'une science du droit chez Bentham. Alors j'insiste sur cette idée parce que c'est évidemment la critique classique, notamment d'une partie du juste naturalisme, à l'égard du positivisme. Classique qui pourrait être adressé et qui a été adressé à Bentham, à partir du moment où vous assimilez le droit simplement à l'expression d'une volonté, donc la volonté éventuellement du plus fort, à partir du moment où vous n'affirmez plus les valeurs, ça veut dire que vous légitimez le pouvoir, ça veut dire que vous prenez tout ce discours. Ce qui me semble intéressant, c'est que la position de Bentham, et encore plus parce qu'elle est outrancière, parce que ces attaques se font dans un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire chapitré des débats doctrinaux et la position de Bentham montre à la fois la nécessité de séparer les deux choses et la construction d'un lien, mais d'un lien volontaire, d'un lien réfléchi, entre l'affirmation qu'il peut y avoir un projet descriptif de ce qu'est le droit, l'affirmation donc qu'il faut peut-être, ou que l'on peut, dans le cadre de ce projet, critiquer des présentations a priori ou des présentations juste naturalistes sans que pour autant ça soit un refus, un rejet et une critique des valeurs qui sont défendues par les juste naturalistes. Très clairement, on revoit la même chose hein, chez Tennyson, chez Ross et chez Hart. Très clairement, il y a l'idée que le positivisme, parce qu'il sépare la question scientifique et la question politique, est aussi la permission du décidable et du possible. Alors qu'au contraire, le juste naturalisme, confondant les deux questions, apporte une réponse qui est à la fois prétendument scientifique et politique, et donc ne permet pas de pouvoir agir pour changer l'objet que l'on décrit. Chez Bentham, et l'argument est d'ailleurs utilisé dans sa critique des droits de l'homme très fortement, cette idée, elle est présente, et le projet politique de Bentham par rapport à son projet épistémologique sont, à mon sens, parfaitement cohérents. François Dreyfus a insisté tout à l'heure pour notamment de l'idée de procédure, et ça me paraît justement intéressant que Bentham fasse vraiment basculer sur le terrain procédural, si on veut parler en termes modernes, sur le terrain d'une démocratie procédurale et non pas d'une démocratie substantielle et de valeurs substantielles. Méthode maintenant, Bentham insiste évidemment, et c'est là qu'il est sans doute le plus étonnamment moderne, il insiste sur l'analyse du langage et il annonce tout ce qui sera l'analyse critique du langage à partir des écoles analytiques en gros. En un sens, il est donc empiriste, mais il est aussi analytique, et cela en plusieurs sens. Dans l'analyse critique du langage, il fait émerger, les choses étaient parfois présentes dans Chiou, mais il fait clairement émerger deux outils clés, il se fonde sur deux outils clés, une distinction des niveaux de discours, insister sur l'analyse du langage permet évidemment d'insister sur la nécessité de distinguer les niveaux de discours dans une méthode de la science du droit, et également, d'un point de vue critique, la déconstruction du discours juridique, la déconstruction des énoncés du droit. En ce qui concerne les niveaux de discours, le principal souci de Bentham et de son lecteur, c'est j'ai déjà évoqué précédemment, c'est cette multiplication des distinctions qui entraîne souvent la complexité, voire la confusion. Dans l'Introduction to the Principle of Morals and Legislation, Bentham introduit in fine l'élément qui, à mon avis, est l'élément essentiel de tout projet politique, celui qui va véritablement permettre d'assimiler ou de définir ce qu'est un projet positiviste. Il réfléchit sur ce qui pourrait être le contenu, indique ce que pourrait être le contenu d'un ouvrage qui exposerait les principes du droit. Et il distingue entre un contenu qui pourrait être un contenu d'exposé et un contenu qui pourrait être un contenu fixant l'art de la législation. Première distinction, mais elle n'est pas forcément première distinction entre un livre qui porterait sur le droit tel qu'il est, un livre qui porterait sur le droit tel qu'il doit être, et, en sous-entendu, ou en tous les cas, un élément essentiel de cette distinction, l'impossibilité de traiter sur le même plan, sur le même terrain, des formules ou des propositions qui relèveraient de chacun de ces deux terrains. Plus intéressant peut-être, ou pour compléter, à l'intérieur de ce que serait un exposé du droit, un exposé des principes du droit, Bentham bascule sur la fonction qu'aurait cet exposé en fonction de la position du locuteur, de celui qui fait l'exposé. Il y a en effet la possibilité que l'exposé soit un exposé qui commande, qui est doté d'autorité, et la possibilité que l'exposé soit un exposé non doté d'autorité. Autrement dit, ça fait bien écho à quelque chose qui, par ailleurs, a été critiqué dans son expression, l'idée qu'il puisse y avoir un Zolen, et un Zolen descriptif. C'est-à-dire qu'on puisse exposer le droit, parce qu'on crée le droit, le législateur, en fonction de la position du locuteur, et que la doctrine, en exprimant ce qui a été dit, puisse décrire cet exposé. Alors évidemment, je ne dis pas que Bentham tombe dans les mêmes apories que Kelsen, je ne crois même pas du tout qu'il tombe dans ces mêmes apories, mais ce qui est intéressant, c'est que immédiatement, Bentham pointe la distinction essentielle. Qu'est-ce que c'est que d'écrire quelque chose qui est en commandement s'il ne s'agit pas simplement de dire « X a commandé que ». Et de ce point de vue-là, les distinctions entre discours, niveau de discours, soit en fonction de la fonction qu'ils assument, ce qu'est le droit, ce que doit être le droit, soit en fonction de ce qu'est le locuteur, ce qu'est le droit parce que je le décide, ce qu'est le droit parce que je rends compte de ce qui est décidé, c'est évidemment les outils clés qui permettent ensuite, pour une science du droit, de décrire son objet. Dernier point rapidement, dans la méthode, il y a une distinction des niveaux de discours, il y a un projet de distinction des niveaux de discours, il y a aussi une déconstruction des énoncés juridiques, une déconstruction des concepts juridiques, une déconstruction des croyances du droit. La méthode analytique de Bentham est une méthode éminemment critique, critique sur le fond, critique dans la forme. À vrai dire, Bentham passe, je vais noter, à la moulinette, je ne sais même pas si c'est la moulinette, hein, c'est le broyeur à papier, c'est ce que vous voulez, tous les concepts, la plupart des concepts qui sont utilisés par les juristes, il les broie en tant que concept commun non scientifique des juristes, éventuellement, mais pas nécessairement, il en propose une reconstruction, reconstruction de ce qu'est le droit, pas une valeur, mais ce qui a été décidé par une autorité, etc., etc. Mais la plupart du temps, il laisse au fond de corbeille et papier. Il ne cherche même pas à les reconstruire parce qu'ils n'ont de fonction que linguistique. Alors, évidemment, ce qui est le plus clair dans cette démarche, c'est tout le projet sur les fictions, toute l'analyse des fictions, c'est bien connu, je ne fais que le pointer, mais c'est aussi quelque chose qui apparaît évident quand on revient, alors, toujours un problème avec Bentham, c'est la disponibilité des textes en français, donc je profite de la présence de Jean-Pierre Clairaut pour saluer la publication, somme toute assez récente, de cette nouvelle version de la position de Bentham contre les droits de l'homme, toute l'analyse de Bentham contre les droits de l'homme, c'est de la déconstruction des concepts proposés par la déclaration. Et c'est cohérent avec son discours. C'est-à-dire, ce que disait aussi François Dreyfus, c'est que Bentham, il n'est pas contre les valeurs, il n'est pas contre cette révolution. C'est pas du contre-révolutionnaire ce qu'il fait. C'est juste d'analyser la fonction que peut avoir la déclaration des droits de l'homme, de regarder les concepts qui sont avancés et de les considérer soit comme un non-sens, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas avoir de signification. Évidemment, ceci résulte de l'analyse linguistique, soit, et c'est là que le projet politique soit comme quelque chose qui se retourne contre le projet politique. Alors, juste un exemple en deux minutes, l'analyse qu'il fait de l'article 17 de la Déclaration sur le droit de propriété, relié à l'article 1 sur l'égalité, et l'idée que ces droits de l'homme sont des droits de toute éternité, de discours juste naturaliste. Disons des droits que le législateur ne pourrait pas changer. Des droits qui doivent s'imposer de tout temps, de toutes circonstances. En reliant les deux choses, il montre qu'en réalité, c'est un projet qui est un projet fermé. C'est un projet qui, notamment, ne va faire, parce qu'on ne pourra pas toucher à la propriété, que celui qui est beaucoup plus riche que les autres demeurera de tout temps beaucoup plus riche que les autres. Et alors, là où ça résonne, évidemment, de manière très actuelle, c'est que, sous une certaine forme, c'est aussi ce qui est présent dans le discours sur l'état de droit, l'idée d'un état de droit, c'est-à-dire l'idée que finalement, le souverain, si on a une vision démocratique, ou les intérêts à prendre en compte, si on a une vision utilitariste, ce ne sont pas le peuple, les individus de la société réelle, c'est un certain nombre de valeurs affirmées comme intangibles. Affirmer comme intangibles des valeurs, c'est aussi soustraire le pouvoir des citoyens, des individus, des hommes et des femmes réels,